Le récit.
Il est considéré comme l'un des pères de la patrie en Italie.
Rocco Siffredi.
Non, Stéphane. Non, bien avant Rocco. Et lui a œuvré dans un registre un poil différent. Il a tenté d'unifier le pays et il a tout fait pour y parvenir. Stéphane Bern nous raconte un révolutionnaire à la chemise rouge, le général Giuseppe Garibaldi.
Nous sommes le 4 juillet 1807 et le petit Giuseppe vient de naître en ce début d'été dans la famille Garibaldi. Une famille de marins-pêcheurs installés dans une ville qui n'est française que depuis 1793, Nice. S'il est né français, il ne l'est pas resté très longtemps. En effet, la fin du Premier Empire marque aussi celle de ce premier attachement. En 1814, la future capitale de la Côte d'Azur retourne pour un temps dans le giron du royaume de Piémont-Sardaigne. Anecdotique à première vue, ce rattachement annonce pourtant déjà la relation particulière qui va se tisser entre la France et ce gamin dont la famille vient de Ligurie, au nord-ouest d'une Italie que Garibaldi va largement contribuer à unifier. Mais l'heure n'est pas encore aux grandes épopées romantiques. Fils de pêcheur donc, c'est par la mer que Garibaldi découvre l'Italie. Par ses côtes d'abord, puis par Rome dont la visite le marque au fer rouge lorsqu'il y entre pour la première fois. Déjà, Garibaldi en est convaincu, la ville qui a jadis gouverné le monde doit être à ses yeux la capitale de l'Italie unifiée. En 1825, pourtant, l'idée de ce jeune homme de 18 ans tient encore de l'utopie. La péninsule est éclatée entre une série d'entités distinctes, certaines dominées par des puissances étrangères, à l'image de l'Autriche-Hongrie, d'autres dirigées par des dynasties comme celles qui tiennent les royaumes des deux Siciles ou de Sardaigne. Mais le courant patriotique qui milite pour l'unité du pays gagne en puissance dans les années 1830, emmené par un de ses pères fondateurs de l'Italie moderne, un autre Giuseppe Mazzini, un républicain pur et dur auprès de qui Garibaldi fait ses premières armes, dans tous les sens du terme, sur le plan théorique comme sur le plan militaire. Révolutionnaire dans l'âme, Garibaldi se forme à une lutte patriotique qui aurait déjà pu lui coûter cher en 1834 lorsqu'il est capturé au lendemain d'une des nombreuses opérations lancées par Mazzini. À 27 ans, Garibaldi n'a pas d'autre choix que l'exil. Il part pour l'Amérique du Sud où son tempérament, disons, agité, fait merveille. Sur un continent enfiévré par une série de révolutions qui en suivent d'autres, et on annonce déjà de nouvelles, Garibaldi fait le coup de feu un peu partout, de 1835 à 1848. Au Brésil, il se fait corsaire au service du Rio Grande do Sul, une des régions qui se révolte contre le pouvoir central et taille des croupières aux armées impériales. En Argentine et en Uruguay, lorsqu'il ne donne pas des cours de mathématiques à Montevideo, Garibaldi se mêle à la guerre qui ravage la région aux côtés des rebelles opposés au presidente Manuel Oribe. C'est là qu'il commence à construire sa légende, celle d'un homme au courage physique indéniable, d'un aventurier à l'énergie inépuisable et d'un meneur d'hommes hors pair. Là aussi qu'il commence à habiller ses partisans d'une chemise rouge pour qu'ils ne voient pas leur sang couler. En 1848 pourtant, lorsqu'il peut enfin retourner dans la vieille Europe, Garibaldi semble assagi, assez en tout cas pour que ce républicain convaincu s'engage au service de tous ceux qui, en Italie, luttent contre les influences étrangères au nom d'une unité italienne qui prime à ses yeux sur la République. C'est le temps de ses premiers grands faits d'armes sur le sol européen, comme lorsqu'il défend, durant la première guerre d'indépendance de l'Italie, l'éphémère République de Rome contre des troupes françaises infiniment plus nombreuses, pourtant venues là pour restaurer l'autorité du pape sur les états pontificaux. Garibaldi tient un mois, ce qui est inespéré. Mais une fois Rome tombée, la tragédie s'en mêle. Anita, son épouse brésilienne tant aimée, meurt de fièvre à Ravenne, sur la route d'un nouvel exil. Les soubresauts du Risorgimento italien sont nombreux. La marche vers l'unité est longue, mais les aventures épiques de Garibaldi lui valent des sympathies dans le monde entier, à commencer par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France aussi. Garibaldi sent la poudre et la révolution. Et les grands auteurs romantiques s'y retrouvent. Victor Hugo et Alexandre Dumas se prennent d'amitié pour ce diable d'homme, toujours prêt à forcer une barricade, le poitrail en avant, la barbe hérissée et les armes à la main, au service d'une cause plus grande que lui. Mais la première guerre d'indépendance est un échec et Giuseppe Garibaldi doit une nouvelle fois quitter l'Europe pour une longue errance. Il travaille un temps comme ouvrier dans une usine de chandelles à New York avant de revenir sillonner les mers du globe pour y vendre tout et parfois n'importe quoi, y compris du guano, ces fientes d'oiseaux qu'on achète alors à prix d'or pour servir d'engrais dans les champs. Mais la Méditerranée lui manque et Garibaldi, une fois encore, revient y naviguer paisiblement quelques années à bord de son navire de pêche, le Salvatore. En 1858, le révolutionnaire a 50 ans passé. Un âge où les héros sont parfois fatigués. Mais rien à faire, Garibaldi n'a pas oublié ce vieux rêve de l'unité italienne. Alors, lorsque le Piémont-Sardaigne s'allie à la France dans sa seconde guerre contre l'Autriche, Garibaldi quitte le beau domaine qu'il s'est construit dans son île de Caprera, au large des côtes sardes, pour se mettre au service du comte de Cavour, qui cherche à unir la péninsule sous l'autorité du roi de Sardaigne, Victor Emmanuel II. Prêt à sacrifier un temps ses convictions républicaines au service de l'unité nationale, Garibaldi fait des merveilles. Après avoir défendu Turin pied à pied contre les Autrichiens depuis le lac Majeur, il se lance dans une épopée mémorable à travers la Lombardie, repousse les troupes du général Karl von Urban devant Varese, avant de remporter une nouvelle victoire à la bataille de Sanfermo et d'occuper finalement la ville de Côme. Mais en juillet 1859, la France signe une paix séparée. La deuxième guerre d'indépendance s'arrête là, et Garibaldi avec, écœuré de voir que l'unité n'est toujours pas d'actualité. Il n'attend en tout cas pas bien longtemps avant de recommencer la lutte. En 1860, c'est le peuple de Palerme qui se met cette fois-ci à gronder contre le roi des deux Siciles, François II. Avec quelques centaines de compagnons fidèles qui sont restés dans l'histoire sous le nom des chemises rouges, le général Garibaldi rejoint alors Palerme pour soutenir la révolte et conquérir le royaume, gouverné alors par les Bourbons. Ce qui deviendra l'expédition des Mille va définitivement asseoir sa légende. Non seulement Garibaldi l'emporte, mais il franchit le détroit de Messine et fait tomber Naples au mois de septembre. À cette date, l'Europe retient son souffle. Que va faire Garibaldi ? Créer une république indépendante sur les territoires conquis ou mettre de côté ses convictions pour faire un pas de plus vers l'unité de toute la péninsule ? C'est ce second choix que fait le vieux révolutionnaire. En octobre 1860, après un plébiscite qui réunit la Sardaigne au royaume des deux Siciles, Garibaldi salue Victor Emmanuel II comme le roi d'Italie. La suite est digne d'un héros de l'ancienne République romaine. En novembre, refusant tous les honneurs et toutes les récompenses, Garibaldi stupéfie l'Europe en se retirant sur son domaine de Caprera, comme pour signifier qu'il avait en somme achevé sa trajectoire. Mais Garibaldi n'était décidément pas fait pour la retraite. En 1870, lorsque l'intégration forcée de Rome au royaume de Victor Emmanuel II parachève l'unité italienne, c'est vers la France en guerre que Garibaldi se tourne. À 63 ans, le vieux lion n'a pas dit son dernier mot, loin de là. La bataille de Dijon, qu'il remporte aux côtés de ses deux fils, est l'une des deux seules batailles gagnées par la France contre la Prusse. C'est aussi la dernière épopée de chemise rouge, et Garibaldi qui se partage ensuite entre son île de Caprera et Rome, dont il est élu député en 1874. Sa mort, le 2 juin 1882, provoque une vague de deuil et de tristesse dans toute l'Italie et au-delà. Victor Hugo déclare « Ce n'est pas l'Italie qui est en deuil ni la France, mais l'humanité ». Sur la pierre de 3 tonnes qui domine sa tombe à Caprera, Garibaldi s'est contenté de peu de lettres pour une vie aussi flamboyante qu'aventureuse. Son nom, tout simplement, accompagné de l'étoile des Mille, ses quelques centaines de compagnons qu'il avait suivis dans la conquête de la Sicile.